Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur RFI, Radio France Internationale. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h temps universel. Dernière demi-heure de RFI Midi sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. On va parler de l'actualité d'Haïti avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Nous irons aussi au Brésil, au cœur d'un laboratoire travaillant à l'élaboration d'un vaccin contre la dengue. La dengue qui touche le pays dans des proportions sans précédent cette année. Et comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, aujourd'hui en Guyane, Tiziana Amaron, où une contamination à la rage a été détectée sur un site d'orpaillage illégal au cœur du parc amazonien.
Oui, trois orpailleurs sont décédés du virus provoqué par les chauves-souris vampires. Une mission sanitaire s'est rendue sur place et on fera le point dans quelques minutes, Anne.
A tout à l'heure, Tiziana Amaron, on vous retrouvera dans 20 minutes. Et d'abord, on va faire le point sur l'actualité internationale.
Anne Contner.
Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
La Turquie restreint les exportations de nombreuses marchandises vers Israël.
Des sanctions économiques d'Ankara, les premières turques depuis le début de l'offensive d'Israël contre la bande de Gaza. Décision qui intervient un jour après que la Turquie a annoncé que l'État hébreu a bloqué sa demande de largage d'aide humanitaire sur l'enclave palestinienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, l'une des voix les plus critiques de la guerre menée par Israël contre le Hamas, était sous très forte pression de son opinion publique à Istanbul. Explication signée Anand Lauer.
Fil et profilé en aluminium, acier, ciment, peinture, câbles électriques, pesticides et autres engins de chantier, la liste s'étire sur 54 lignes. À compter de ce 9 avril et selon le communiqué officiel, jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza et que l'aide humanitaire y parvienne sans entrave, la Turquie restreint de façon significative ses exportations vers Israël. Cette décision est une nouvelle étape dans la réponse d'Ankara à l'offensive contre l'enclave palestinienne qui s'était limitée ces 6 derniers mois au rappel de l'ambassadeur turc à Tel Aviv, à la rupture des discussions sur la coopération énergétique et au discours très véhément de Recep Tayyip Erdogan contre l'État hébreu. La Turquie rechignait jusqu'ici à prendre des sanctions, arguant que de telles mesures n'avaient pas fonctionné dans le passé. Même si les échanges commerciaux avec Israël ont chuté d'environ un tiers depuis le 7 octobre dernier, ils se sont largement poursuivis, ce qui a provoqué de très fortes critiques au sein de la base électorale du chef de l'État turc. Dans son parti, l'AKP, on estime même que c'est l'un des facteurs qui explique la défaite du pouvoir aux élections municipales du 31 mars. Anand Lauer, Istanbul, RFI.
Et dans ce contexte, Israël a fixé une date pour une offensive sur Rafah au sud de la bande de Gaza. Aucune autre information sur cette éventualité n'a été donnée par le Premier ministre israélien. Est-ce là alors que le Hamas et Israël tentent de se mettre d'accord sur une trêve? Le Hamas qui étudie ce mardi une proposition de trêve accompagnée de la libération d'otages. Autre conflit entre la Russie et l'Ukraine avec deux Russes tués aujourd'hui dans la région de Bryansk après un bombardement ukrainien. Région de Bryansk qui est à l'ouest de la Russie. Bombardement des forces de Kiev sur le sol russe donc. Les forces ukrainiennes équipées d'armes et de munitions iraniennes. Fourniture par les États-Unis la semaine passée, après les avoir saisies, ces armes et ces munitions étaient envoyées par l'Iran aux rebelles houthis du Yémen.
On parle à présent de la situation politique en Haïti. Ça semble avancer, Stéphane, mais très lentement.
Et preuve en est, les responsables politiques haïtiens ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentielle de 22 mois. Les membres du conseil présidentiel, qui doit prendre la place du Premier ministre démissionnaire, Ariel Henry, se sont mis d'accord après des semaines de négociations. En attendant, sur le terrain, la situation est toujours aussi catastrophique. La journée d'hier aura été une nouvelle journée de violence, avec des affrontements armés entre les forces de l'ordre et les gangs dans le centre-ville de Port-au-Prince, Christophe Pagé.
Oui, dans le centre de la capitale, le Champ de Mars abrite le palais national, le QG des forces armées ainsi que des ministères. Il a été une nouvelle fois ce lundi le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et des gangs qui, selon le quotidien Le Nouvelliste, veulent faire disparaître les derniers signes de l'autorité de l'État. Toujours dans le centre, un bâtiment scolaire, le collège Bird, a été attaqué et on a appris que la résidence de l'ancien député Printemps Bélisère avait été pillée puis incendiée vendredi soir. Ailleurs, dans l'arrondissement de Port-au-Prince, des tirs ont été entendus, entre autres Carrefour de l'aéroport et à Delmas 32, un circuit ciblé depuis plusieurs semaines par le gang de Jimmy Cherizier dit Barbecue. Des tirs également dans la commune de Croix-des-Bouquets où le gang de Canaan a détruit ce week-end les locaux du sous-commissariat de Bon Repos, abandonné depuis une attaque fin février. Selon les chiffres de l'ONU, consultés par le site Alter Press, en 2023, les violences des gangs ont fait 5000 morts, c'est plus, remarque Alter Press, que les 3000 personnes tuées en 3 ans au début des années 90, pendant la période du coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide.
Et on va reparler d'Haïti dans quelques minutes avec le directeur de l'agence Alter Press, justement, Godson Pierre, qu'on appelle dans 5 minutes maintenant.
L'ancien vice-président équatorien Jorge Glas, transféré à l'hôpital, en prison depuis vendredi soir, il a fait un possible malaise d'après les autorités équatoriennes. Jorge Glas, qui est au cœur de la crise politico-diplomatique entre l'Équateur et le Mexique, puisqu'il a été arrêté après une intervention de la police équatorienne dans l'ambassade mexicaine à Quito.
9h05 à Mar-a-Lago, en Floride, où Donald Trump a reçu le chef de la diplomatie britannique.
David Cameron, qui s'est entretenu avec l'ancien président américain. Pour autant, le ministère britannique des Affaires étrangères n'a pas donné d'explication sur la teneur et le contenu de ces échanges. Donald Trump, qui se consacre également à sa campagne pour les primaires républicaines en vue de la présidentielle américaine, ce sera en novembre prochain. Le républicain, qui s'est de nouveau exprimé sur l'avortement, il s'est dit pour laisser chaque État prendre le soin de restreindre ou non ce droit. Obligé donc de se positionner sur la question du délai légal de l'interruption volontaire de grossesse, Donald Trump, dans une vidéo sur son réseau social Truth Social, adopte la même ligne et il évite ainsi de promettre une interdiction fédérale de l'IVG. Une position peu étonnante pour Ludivine Gili, la directrice de l'Observatoire américain du Nord de la Fondation Jean Jaurès.
Sa déclaration, c'est la manière la plus simple pour lui de ne pas prendre une position trop ferme sur le sujet. Il avait mentionné la semaine dernière la possibilité d'annoncer une interdiction à 15 semaines. Finalement, il ne fait pas ça, donc il ne se positionne pas clairement en faveur d'une interdiction fédérale à partir d'un terme donné. En revanche, il ne va pas non plus se positionner en faveur du droit. Donc, il se positionne sur une non-position. Ça ne change pas les possibilités pour les démocrates de l'attaquer. Et lui peut toujours mettre en avant cette déclaration pour dire, du côté républicain, d'une part qu'il soutient le droit à la fécondation in vitro, d'autre part qu'il soutient la liberté des États de faire ce qu'il juge juste, chacun dans son état.
Des propos recueillis par Abla Junaidi pour RFI. La Suisse, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui a rendu ce matin un jugement historique en condamnant pour la première fois un État pour inaction climatique. Décision inédite saluée par la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg. Ce n'est que le début en matière de contentieux climatique, explique-t-elle. En bref, l'actualité en France de ce mardi, elle est marquée par cette annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il explique que la sécurité va être renforcée considérablement à Paris dans les prochaines heures. À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions du PSG face à Barcelone, les autorités qui prennent cette décision après une menace reçue du groupe État islamique sur la compétition communication de Daesh, d'après Gérald Darmanin, qui vise particulièrement les stades et sur les pelouses. À présent, on joue aujourd'hui, en effet, pour les premiers quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera ce soir, 19h, temps universel, Arsenal qui affronte le Bayern Munich et le Real Madrid qui reçoit Manchester City.
Et on suivra tout ça avec notre service des sports. Merci Stéphane Genest.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'inquiétude, l'angoisse même, persiste à Port-au-Prince. Dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine, les habitants n'osent plus sortir de chez eux. On va en parler avec notre confrère. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
Directeur de l'agence Alter Press, vous racontez sur votre site la vie au ralenti et ses tirs entendus hier encore, en particulier à Tabar.
Il faut dire que cette tension est montée d'un cran après des menaces de représailles lancées par un chef de gang contre des policiers nationaux et ceux et celles qui oseraient s'aventurer dans les rues. Beaucoup de tirs ont été signalés du côté de Tabar, au nord-est de la capitale. Des témoignages nous sont parvenus sur l'angoisse des riverains et différents autres quartiers de la capitale ont aussi été gagnés par la panique. Les quartiers du centre-ville aussi, particulièrement ceux limitrophes du palais présidentiel, toujours ciblés par les bandits.
Ces violences, elles atteignent des niveaux jamais vus. 5000 personnes tuées l'année dernière et c'est encore pire depuis le début de l'année. Il n'y a jamais eu autant de meurtres depuis 30 ans en Haïti. Et dans ce contexte, vous relayez un appel. Il faut absolument éviter d'utiliser les civils comme des boucliers humains.
Alerte du spécialiste en sécurité James Boya. Pour lui, les appels de certains chefs de gang invitant la population civile à regagner leur maison abandonnée n'est qu'une stratégie leur permettant de sanctuariser leur territoire grâce à la présence d'une masse critique de citoyens et de citoyennes en cas d'attaque des forces publiques, en faisant usage depuis au moins 4 ans d'une violence prédatrice contre les membres de la population civile, forçant près de 400 000 personnes à se déplacer. Eh bien, les gangs, sans le savoir, ont fini eux-mêmes par ébranler leur propre stratégie de survie. C'est une analyse de James Boyard et voici en perspective une évolution politique qui pourrait influer sur la crise sécuritaire.
Sur le plan politique, justement, Godson Pierre, la transition progresse un peu. Les membres du Conseil présidentiel sont d'accord sur les contours de cette transition et ils devraient prêter serment prochainement.
On parle de la fin de la semaine, mais il n'y a pas encore d'annonce officielle. Quoique près, le décret officialisant le Conseil présidentiel de transition n'a pas encore été publié dans le journal officiel Le Moniteur. En attendant, les 9 membres du Conseil s'accordent sur le fait de transmettre le pouvoir à un président élu le 7 février 2026. Ils choisiront un nouveau Premier ministre et formeront un gouvernement. Ils mettront également en place un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui remplit d'un Parlement et les grands axes d'action seront la sécurité, la justice, le redressement économique, la réalisation d'une conférence nationale et les élections générales.
Merci Godson Pierre, on vous retrouvera mardi prochain et d'ici là tous vos articles sont bien sûr disponibles sur votre site alterpresse.org. On va continuer à parler d'Haïti. Ailleurs dans la presse, Achim Lippold, il est question d'un sujet central lié aux violences dans le pays. Il s'agit du trafic d'armes.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. C'est effectivement un article à lire dans le Washington Post aujourd'hui. Haïti ne produit ni armes ni munitions, tout est importé. Selon le Washington Post, les fusils semi-automatiques utilisés dans le fusillade de masse aux États-Unis servent aussi à terroriser la population haïtienne. Aucune donnée officielle quant au trafic, mais 85% des armes saisies par les autorités haïtiennes proviennent des États-Unis. Il faut dire qu'Haïti n'est pas le seul pays caribéen à être inondé par les fusils, mitraillettes et munitions fabriqués aux États-Unis. L'année dernière, plusieurs gouvernements de la région ont poussé un cri d'alarme demandant aux États-Unis d'empêcher le trafic d'armes vers leur pays. Un trafic que ses dirigeants considèrent comme une menace pour la démocratie. Côté américain, on fait savoir que c'est très difficile de contrôler les cargos qui partent de Miami à destination d'Haïti. Les armes sont cachées dans d'énormes qui contiennent toutes sortes de marchandises que les Haïtiens de Miami envoient à leur famille. Et selon le responsable de la sécurité intérieure de l'État de Miami, eh bien cela prendrait des semaines pour ses agents de fouiller les cargos.
Achim Lippold, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant, mais tout de suite, direction l'Équateur.
Radio France Internationale.
Que no saben cómo está el vicepresidente Jorge Glass y que por favor nos retiremos.
L'Équateur où l'incertitude plane sur la santé de l'ancien vice-président Jorge Glass. Des proches, des soutiens politiques de l'ancien vice-président d'Équateur se sont rassemblés hier devant l'hôpital où il a été conduit. Vous entendez en ce moment une membre de son parti. Elle explique que les forces de l'ordre n'ont pas voulu donner d'informations, qu'aucune nouvelle n'a été communiquée depuis 60 heures. Voilà ce qu'elle dit. Jorge Glass, détenu depuis son arrestation spectaculaire au sein même de l'ambassade du Mexique, où il était pourtant protégé. Il a dû être conduit hier après-midi à l'hôpital pour ce qui s'apparente à une tentative de suicide, Éric Sanson.
Les autorités pénitentiaires n'ont pas expliqué pourquoi Jorge Glass a été autorisé à conserver avec lui dans sa cellule tant de médicaments, certes autorisés, mais en nombre suffisant pour le plonger dans le coma. L'ancien vice-président a été découvert prostré sur son lit. Il a été conduit immédiatement dans un centre de soins proche de la prison de haute sécurité, connue comme la Roca, la Roche, car elle est soi-disant aussi hermétique que celle d'Alcatraz à San Francisco. Après une première évaluation, Glass a été conduit à l'hôpital naval. Sans jamais parler de tentative de suicide, le rapport de police évoque une overdose de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs l'ayant plongé dans un coma profond. L'état de l'ancien vice-président a été stabilisé avant qu'il ne soit renvoyé dans sa cellule, selon ses avocats. Ces derniers affirment ne pas avoir pu rentrer en contact avec lui et le considèrent comme séquestré par le gouvernement équatorien. De son côté, le président Daniel Noboa a indiqué qu'il avait ordonné l'opération policière dans l'ambassade mexicaine pour éviter une fuite imminente de l'ancien vice-président. Eric Sanson, Quito, RFI.
Et les tensions diplomatiques suscitées par cette affaire entre l'Équateur et le Mexique seront au menu à Rimnipold d'une réunion aujourd'hui au sein de l'Organisation des États américains.
Oui, une première tentative d'amorcer cette crise à Anne, selon El Universo. Ce mardi, une délégation de 3 ambassadeurs équatoriens se rendent à Washington, le siège de l'Organisation des États américains. L'objectif, selon Universo, c'est d'expliquer la raison qui a conduit leur pays à forcer l'entrée de l'ambassade mexicaine et d'arrêter l'ancien vice-président Jorge Glass.
Explication aussi du président équatorien Daniel Noboa. Dans une lettre, s'est adressé directement aux Mexicains.
Une décision exceptionnelle, selon lui, motivée par la volonté de protéger la sécurité nationale. Daniel Noboa, dans la même lettre, dit qu'il sera toujours disposé à résoudre les différends, mais que la justice n'est pas négociable et que l'Équateur ne protégera jamais les criminels qui ont fait du mal aux Mexicains. C'est-à-dire dans le journal équatorien La Hora.
Le même journal, Arim, estime d'ailleurs que les responsabilités de cette crise sont partagées.
Oui, selon La Hora, le gouvernement mexicain d'Andrés Manuel López Obrador a violé le principe de non-intervention en octroyant l'asile politique à un Équatorien condamné pour corruption. Et dans le même temps, poursuit le journal, le gouvernement équatorien a violé de manière grotesque une tradition qui a contribué à la paix entre les États en ne respectant pas le principe d'inviolabilité des sièges diplomatiques pour La Hora. Tant le président mexicain, avec les élections à l'horizon et ses déclarations intempestives sur le meurtre du candidat à la présidence équatorienne, Fernando Villavicencio, que le président Daniel Noboa, confronté à un référendum à la fin du mois, joue avec les institutions à des fins électorales.
Et au Brésil, Arim, la presse se fait l'écho encore de la passe d'armes entre un juge de la Cour suprême et Elon Musk, le propriétaire du réseau social X.
Oui, exactement. Une passe d'armes qui se poursuit avec Elon Musk, revenu à la charge hier lundi. C'est un dictateur. Il tient Lula en laisse. Voilà quelques-unes des amabilités adressées par le propriétaire de X au juge Alexandre de Moraes, qui, on repense, a décidé d'inclure Elon Musk dans une enquête sur les milices numériques au Brésil. À l'exception de Jair Bolsonaro et de ses sympathisants, tout le monde politique brésilien fait bloc derrière le juge attaqué. Le Congrès, selon Carta Capital, pourrait accélérer l'examen d'un projet de loi datant de 2020 sur la régularisation des réseaux sociaux. Mais attention, écrit Folha de São Paulo, cet affrontement peut se transformer en piège pour la Cour suprême. Le journal dénonce les excès du juge Alexandre de Moraes dans sa volonté de contrôle du contenu des plateformes qui pourrait l'obliger de fermer X au Brésil, conclut Folha de São Paulo.
Revue de presse signée Achim Lipold.
RFI Midi, Anne Cantner.
On reste au Brésil. Le pays est confronté à une épidémie de dengue inédite. Le gouvernement a déjà compté plus de 2 millions de cas depuis janvier et ils seront deux fois plus nombreux d'ici à la fin de l'année. Le vaccin pourrait être une solution, mais il n'en est qu'à ses débuts. La bactérie Wolbachia concentre beaucoup d'espoir. Cette bactérie, elle se transmet aux moustiques, chez qui elle inhibe la propagation du virus. Elle est cultivée à l'Institut Fiocruz à Rio, institut dans lequel s'est rendue notre correspondante Sara Cozzolino. Reportage.
Nous entrons dans le laboratoire de création de moustiques du World Mosquito Programme. Diogo Chalegre est biologiste.
Comme vous pouvez le remarquer, il fait assez chaud dans cette salle. Cette température élevée permet de simuler la température ambiante idéale pour le meilleur développement des larves.
C'est dans de grandes cages à moustiques que sont cultivées les espèces Aedes aegypti, porteurs de la bactérie Wolbachia, les Wolbitos comme ils sont surnommés. Pour ces espèces de moustiques qui transmettent le virus de la dengue, du chikungunya ou encore du Zika, la présence de la bactérie permet de stopper la transmission des virus.
Cette bactérie est présente dans la nature, dans plus de 50% des insectes, comme les abeilles, les fourmis et les papillons. Mais les Aedes aegypti ne l'ont pas. Alors des scientifiques ont pris cette bactérie de la mouche de fruits, la drosophile, et l'ont insérée dans les œufs de l'Aedes aegypti. La bactérie se transmet de la femelle à son enfant et c'est la raison pour laquelle la méthode est pérenne.
Cette méthode originaire d'Australie est pour l'instant appliquée au cas par cas au Brésil. En partenariat avec le ministère de la Santé, 5 villes en font l'expérience et 7 autres commenceront en 2024. Un choix politique car c'est un investissement pour les mairies.
Aujourd'hui, nous calculons que la méthode coûte entre 6 et 10 euros par habitant, mais ce n'est pas une somme à payer par an. La dépense est faite une fois pour toutes.
De l'autre côté de Rio de Janeiro, la ville de Niterói a été la première à être 100% couverte par la méthode Wolbachia en 2023. L'expérience a commencé en 2015, quartier par quartier, et les chiffres sont positifs. Les cas de dengue ont été réduits de 70%. Pour que la ville soit couverte, les Wolbitos doivent être lâchés dans les rues de la ville, ce qui peut parfois effrayer les habitants.
Au début, il y a eu un peu de résistance. Les habitants trouvaient ça bizarre. Ils disaient « Mais il y a déjà plein de moustiques ici. Vous allez en amener encore plus ?» Mais on expliquait que les moustiques qu'on allait lâcher nous permettraient d'en finir avec la dengue.
Raissa Vieira est agent communautaire de santé dans la favela de Atalaya à Niterói. Elle a fait ce travail d'information auprès des habitants, car dans les favelas, les risques de prolifération de la dengue sont encore plus importants.
Les maisons sont très proches les unes des autres. Il n'y a quasiment pas de système d'assainissement. Il y a des égouts à ciel ouvert, de l'eau stagnante, des trous dans la rue où l'eau peut s'accumuler. Ce sont des quartiers où le gouvernement doit redoubler d'attention.
Elle souligne que la présence de la bactérie Wolbachia ne dispense pas des gestes de prévention pour éviter la prolifération de moustiques.
Hola, boa tarde.
À 73 ans, Bertoldo et sa femme Rita entretiennent parfaitement leur maison.
Après la pluie, il faut un grand ménage à cause de la dengue. Nettoyer les siphons, les gouttières. J'ai déjà préparé l'échelle pour aller nettoyer la gouttière.
Mais ses habitants regrettent l'irresponsabilité de leurs voisins qui ont des citernes ouvertes et pourraient devenir des foyers de moustiques. Selon eux, c'est à l'État et aux municipalités d'investir davantage dans une campagne d'information et de sensibilisation, car la dengue est l'affaire de tous les citoyens. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
RFI à Cayenne, 98.7 FM.
Un petit mot quand même de l'éclipse totale de soleil qui avait lieu hier sur le nord du continent américain. La presse notamment revient encore sur ce phénomène rare qui a été observé dans la journée d'hier.
Ah, on voit quasiment plus rien.
Ouais, c'est sombre, mais il est genre 3h de l'après-midi.
On vient de vivre une partie d'histoire très exceptionnelle.
Des réactions recueillies par notre correspondante au Québec. L'émerveillement était aussi largement partagé au Canada, au Mexique, dans tout le Canada. Mais aussi donc au Mexique et aux États-Unis où l'éclipse a aussi donné des idées à certains. Les journaux américains rapportent par exemple aujourd'hui que 300 couples ont choisi ce moment, ces 4 minutes d'obscurité en plein jour, pour se marier. Cela s'est passé à Russellville, dans l'Arkansas. Merci d'écouter RFI. On va maintenant rejoindre nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer.
Le journal des Outre-mer.
Bonjour Tiziana Marone.
Bonjour Anne.
En Guyane, une contamination à la rage a été détectée à Eau-Claire. C'est un site d'orpaillage illégal dans le sud-ouest du territoire, après le décès de 3 personnes.
Oui, une mission sanitaire a été menée la semaine dernière dans ce secteur de Marie-Passoula. C'est la commune la plus étendue de France. Les autorités sanitaires guyanaises ont identifié une centaine de personnes exposées à la rage provoquée par la morsure de la chauve-souris vampire. Les explications d'Olivier Damon de Guyane La Première.
À l'issue de l'enquête sanitaire sur le site, on parle de 80 à 100 expositions dans un scénario bien connu selon Christophe Perfitte, directeur de l'Institut Pasteur de Guyane, membre de cette mission.
Donc ces hommes rentrent dans un écosystème, le perturbent, exercent une prédation évidemment, il faut s'alimenter. Donc les chauves-souris n'ont plus nécessairement à disposition facile tous les animaux qui circulent dans la zone, eh bien, vont mordre les hommes pour essayer de se nourrir.
Composé de médecins, praticiens hospitaliers, scientifiques et autres spécialistes de l'environnement, l'équipe d'enquêteurs devait donc déterminer si la population d'Eau-Claire, estimée à environ 200 personnes, a subi une attaque de chauve-souris, principale voie de transmission de la maladie. Anne Laverne, chercheuse à l'Institut Pasteur de Guyane.
Le virus qui a été identifié est d'origine de chauve-souris, pour le cas qui a été confirmé. Donc on sait que c'est un virus de chauve-souris. La population d'Eau-Claire, vraisemblablement, a subi un gros taux d'attaque par les chauves-souris vampires ces derniers temps.
La présence de chauves-souris fait de la Guyane un territoire exposé à la rage, comme tout le continent. Rien d'exceptionnel donc. Pour autant, l'Institut Pasteur souhaite retourner à Eau Claire pour capturer et analyser les espèces à l'origine du drame.
Olivier Damon de Guyane est la première. En Martinique, deuxième jour de grève au collège de la commune du Marin. Les professeurs dénoncent de mauvaises conditions de travail dans un établissement constitué de préfabriqués, une solution provisoire qui dure depuis 17 ans. Ils s'opposent d'ailleurs à la surcharge de l'espace de travail avec la suppression annoncée d'une classe à la rentrée prochaine. Yannick Bidard, professeur de mathématiques, décrit ces conditions de travail au micro de Christelle Sivat de Martinique la première.
Depuis 2007, à la suite du tremblement de terre, nous fonctionnons dans des modulaires. Ils sont vétustes, nous avons des problèmes sanitaires. Dans certaines salles, nous avons des odeurs d'urine, de rat. Les élèves ne peuvent pas s'abriter puisque nous n'avons que des modulaires. Ils sont obligés de se ranger au soleil. Aujourd'hui, ça fait 17 ans, finalement, notre situation n'a pas changé depuis 2007.
Et toujours en Martinique, en bref, la forte sécheresse est à l'origine de la pénurie d'eau. Plusieurs communes du département sont concernées par des coupures d'eau potable. Le niveau de captage étant critique selon la Société Martiniquaise de l'eau. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée Anne.
Merci Tiziana Marone. Et à demain, on va rester aux Antilles, nous, avec le groupe Delgrès. Mené par le Guadeloupéen Pascal Danaé, troisième album pour les bluesmen caribéens. En voici un extrait.
RFI Midi.
Chaque matin quand j'ouvre les yeux, je pense au monde qu'on a fait. Je regarde autour de moi, tellement de monde dans la peine. J'entends toujours les mêmes paroles. Calimé, radio au moins. Tellement de paroles de haine. Mais à dans qu'un moins, tu me dis fais. Et moi, pareil, pour moi, goumé. Si moi, ni fais en moins, et ben moi. Kevin, nous peut gagner, nous peut gagner. Et moi, commandez-moi pour qui le son nous cacoule et qu'on s'attend. Si si a ti moun an mwen Se pite ka fè mwen pè Si si ou jou kite mwen
Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Réalisé ce mardi par Yann Eligouin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes de vive voix. Chantal Laureau reçoit l'écrivaine franco-libanaise Dominique Aidé pour parler de son ouvrage Le Palais Mawal. Delgrès sur RFI, troisième album du groupe caribéen. Il s'appelle Promis le ciel. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très bonne journée, à demain.
RFI.
Je veux du soleil plein les yeux.
La sélection du mois.
Le bruit des vagues dans la tête. Et tous les jours amoureux.
Flo de la Vega.
Que la vie soit
et Léo Midea. Emma Peters.
RFI Musique.